Merci. Je voudrais remercier Alain Soupon pour l'invitation d'être ici. Normalement, je travaille avec des banques, des entreprises, des participants dans le marché financier. Et c'est vraiment un honneur d'être ici pour cet échange interdisciplinaire sur ces questions fondamentales. Alors, de la plus grande question de la responsabilité financière, cet après-midi, j'ai traité une question plus précise, la responsabilité financière en matière des changements climatiques. Alors, je suggère quatre étapes ou principes essentiels qui devraient être considérés pour faire avancer le dossier de financement de l'action climatique. 1. Corriger des décennies des externalités. Une taxe mondiale significative sur le carbone constitue l'approche la plus équitable, à mon avis. Une taxe de pérennité sur toutes les transactions effectuées sur le marché de financement de l'action climatique. Un renforcement des obligations fiduciaires des administrateurs et des dirigeants qui engloberont les responsabilités en matière de viabilité climatique et finalement de reconsidérer la question de rendement de capital, avec une intendance rigoureuse de la part des investisseurs institutionnels. Alors, comme nous avons déjà entendu aujourd'hui, la question des changements climatiques est vraiment importante. Et à propos le commentaire du juge Fletcher cet après-midi, la Banque mondiale ainsi que 8 centres scientifiques de 100 pays ont observé que selon l'approche actuelle en matière des émissions, dans les 45 ans à venir, la plus grande partie de la planète devra composer avec des sécheresses graves, des fortes chaleurs, des pénuries de l'eau et de nourriture et une perte de biodiversité irréversible. Alors, ce n'est pas seulement pour nos enfants et nos petits-enfants, mais aussi pour quelques personnes ici dans la chambre. Le dioxyde de carbone est le GES le plus préoccupant. Il y a beaucoup de types de GES, mais le dioxyde de carbone reste ou persiste plus longtemps dans l'atmosphère que les autres. Et ça, c'est pourquoi c'est important de faire une priorité sur ça. Alors qu'on reconnaît l'urgence de la situation, pour cette année seulement, les plus grandes entreprises de combustibles fossiles ont alloué presque 700 milliards de dollars à la mise en valeur des réserves supplémentaires. Alors, on sait, je pense qu'il y a un grand consensus sur les étapes qui sont nécessaires pour la carbone neutralité, la décarbonisation de l'électricité, le passage à l'énergie propre, moins de déchets dans tous les secteurs et l'amélioration des puits de carbone naturels. Bien qu'il n'y avait encore une définition universelle reconnue, le financement de l'action climatique fait généralement référence à la myriade de questions relatives au financement des mesures d'atténuation, comme la réduction des émissions, et des mesures d'adaptation, comme l'énergie propre. Le coût de la lutte contre le changement climatique sont énormes et immédiats. L'Agence internationale de l'énergie estime qu'il faudra investir $1 billion supplémentaires par année en énergie propre pour avoir le moindre espoir de limiter le réchauffement planétaire à 2 degrés. Le débat sur le financement d'action climatique est limité dans son cadre, s'appuyant essentiellement sur les marchés de capitaux pour financer les changements, sans prendre en compte les problèmes systématiques associés aux aspects spéculatifs du marché. Les discussions en matière de responsabilité financière sous-estiment le rôle des entreprises à l'origine des problèmes climatiques lorsqu'elles ont externalisé les effets environnementaux négatifs de leurs activités. Ma présentation suggère que nous réorientions la discussion en mettant l'accent sur la prise de responsabilité financière en matière de changement climatique et en intégrant les notions d'équité, de pérennité, d'intérêt public et de bien commun. En premier lieu, pour corriger des décennies d'externalité, il est essentiel que les gouvernements négocient un accord international immédiat sur la mise en œuvre d'une taxe mondiale rigoureuse sur le carbone. un texte qui soit suffisamment uniforme partout dans le monde pour que les entreprises ne se dirigent pas vers les pays les plus laxistes, foreign shop, ou qu'elles ne puissent pas faire pression sur les gouvernements pour que la taxe ne soit pas imposée sous menace de quitter la juridiction. Dans les juridictions qui sont plus vulnérables, la taxe redonnerait les ressources générées aux personnes ou aux secteurs les plus pauvres ou ayant besoin de plus de soutien pour l'adaptation. Les entreprises ont profité de l'utilisation de combustibles fossiles et de l'intrusion dans les puits de carbone naturels, mais elles ont externalisé les coûts environnementaux. Les entreprises multinationales font faire dans plusieurs pays, on sait bien, et les profits sont systématiquement transférés à la société mère, qui peut alors se cacher derrière les personnalités juridiques distinctes de ses filiales pour laisser toute responsabilité en matière de changement climatique à l'entité du pays concerné, mais la filiale sur place n'ayant les actifs pour remédier aux dommages causés. Alors, les sociétés sont les acteurs économiques. Alors, il est donc nécessaire de créer des solides incitatives pour modifier leur comportement. Et en l'absence de dispositions contraignantes, il n'y aura pas d'amélioration dans l'évolution actuellement du changement climatique. Une taxe mondiale sur le carbone représente une mesure directe, juste et équitable pour compenser les externalités précédentes. Elle constituerait un solide incitatif, je m'excuse, pour modifier les pratiques énergétiques. Alors, je propose deux composantes sur une taxe comme ça. La première serait une taxe pour compenser les émissions intérieures. Une telle taxe sur le carbone pourrait être considérée comme un reversement des externalités dont on bénéficie les entreprises dans le passé. Alors, l'argument selon lequel on ne peut pas taxer rétroactivement n'est pas particulièrement convaincant, car les sociétés savent qu'elles sont déchargées des coûts des émissions sur une période beaucoup plus longue que celle pour laquelle je propose, disons, la taxe rétrospective. La deuxième composante de la taxe mondiale serait une taxe sur les émissions actuelles et à venir, obligeant ainsi les entreprises à internaliser les coûts des émissions de leurs activités de production. Une telle taxe créerait une structure appropriée de mesures qui inciterait les entreprises à procéder à des changements fondamentaux dans leur utilisation de l'énergie. Un modeste exemple vient de mon province, de la Colombie-Britannique du Canada. La province a instauré une taxe généralisée sur le carbone en 2008, payée par tous ceux qui consomment des combustibles fossiles. La taxe chiffre le prix du carbone pour encourager les entreprises et les autres à utiliser moins de combustibles fossiles et à réduire leurs émissions de GES. La taxe stratégie offrait les entreprises une période d'ajustement tout en créant immédiatement des incitatives pour réduire les émissions. En deuxième lieu, une taxe de pérennité devrait être imposée sur toutes les transactions effectuées sur le marché du financement de l'action climatique. Les investisseurs dans les titres d'emprunt et de capitaux propres profitent des externalités créées dans les activités des entreprises sous forme de rentabilité accrue des investissements. Un énorme marché a vu le jour au cours de ces 10 dernières années avec, en outre, la prolifération des obligations climatiques et 6 000 nouveaux fonds privés de capitaux propriétaires pour financer les activités liées au changement climatique. Les produits de ces sociétés et les avantages et les risques associés manquent de transparence et on parle peu des effets négatifs éventuels qui pourraient accompagner les avantages. Selon la nature d'un produit dérivé, en anglais « derivatives », les incitatives peuvent être faussées de certaines manières. Par exemple, bien que les obligations catastrophiques, cat bonds en anglais, constituent une stratégie de réduction des risques en cas d'événement catastrophique, elles ne font rien pour prévenir ou atténuer les causes sous-jacentes des événements climatiques, en part sur les résultats, mais pas sur la prévention ou l'atténuation. Dans l'ensemble, ils ne couvrent pas les pays du Global South. Il y a également des risques moraux qui y sont associés. Les obligations catastrophiques ont souvent des clauses qui limitent strictement la nature et le lieu de la catastrophe qui sont couverts. Par exemple, dans le cas de le tremblement et tsunami au Japon, des obligations catastrophiques avaient été émises sur Tokyo, qui a subi des dégâts considérables, mais les indemnisations n'ont pas été versées car le site du sixième n'était précisément dans la ville. Les obligations catastrophes peuvent bénéficier plus les investisseurs qu'à ceux qui cherchent à s'assurer. Le marché actuel s'élève à plus de 13 milliards de dollars avec un rendement pour les investisseurs de 60% dans 5 années. Alors, on a la situation où les personnes qui pensent qu'ils sont protégés ne sont pas protégés, mais il y a beaucoup de profits pour les investisseurs dans ces marchés. Contrairement à l'assurance, qui oblige l'assureur à avoir un intérêt assurable, les dérivés climatiques n'exigent pas que l'acheteur a un intérêt direct dans l'entreprise protégée, ce qui crée un marché spéculatif. Une partie peut, par exemple, acheter des swaps sur défaillance, CDS, en anglais Credit Default Swaps, pour une entreprise, par exemple, engagée dans l'adaptation climatique. Contrairement à l'assurance, la partie peut cependant acheter des multiples de valeur sous-jacents de l'entreprise. Si cette partie a prêté de l'argent à l'entreprise, il pourrait alors être incité à adopter un comportement qui favoriserait l'échec de cette dernière, car elle pourrait gagner plus que si l'entreprise réussissait. Les produits financiers climatiques sont complexes et encore en plein développement. Ils peuvent présenter certains avantages. Les spéculatifs du marché doivent néanmoins être tempérés pour éviter les types de défaillances systématiques qui ont eu lieu avec les produits dérivés au plus fort de la crise financière. Une taxe de pérennité sur toutes les transactions diminuerait le nombre de transactions sur le marché, les recettes pouvant être utilisées pour développer des énergies propres et des autres mesures d'adaptation. Toute finance de l'action climatique liée au marché est basée sur la réalisation des profits et favorise les stratégies d'atténuation et d'adaptation à court terme plutôt qu'à long terme afin de générer des rendements pour les investisseurs. Un autre problème vient du fait que les fonds publics utilisés pour remédier au changement climatique peuvent être assortis de conditions. Par exemple, les pays développés ont exigé, comme condition de financement, que les services d'eau publique des pays en développement soient privatisés. Dans ce cas, les fonds publics servent des intérêts privés plutôt que le bien commun. Le financement de l'action climatique doit être reconnu comme une responsabilité mondiale dans l'intérêt public et pour le bien commun. Au troisième lieu, les obligations fiduciaires des administrateurs et des dirigeants doivent englober leurs responsabilités en matière de viabilité. Les entreprises fonctionnent au gré des décisions des personnes vraies, qui ont l'obligation d'agir dans le meilleur intérêt de la compagnie. Mais cependant, il y a de nombreux pays, le meilleur intérêt a été interprété comme la maximisation du rendement de l'investissement des actionnaires à court terme, au détriment des efforts en matière de développement durable. Le problème s'est aggravé depuis la crise financière mondiale. Un sondage effectué la dernière année a trouvé que presque 80% des dirigeants étaient soumis à des fortes pressions pour produire des résultats financiers en moins de 2 ans, ce qui influence directement la façon dont les entreprises abordent la question des émissions. Le fait de définir le meilleur intérêt de l'entreprise comme incluant la pérennité économique, sociale et environnementale à long terme créerait une obligation positive pour les administrateurs, les dirigeants, celle de s'attaquer au changement climatique tout en les tenant responsables de tout manquement à leurs obligations. Au quatrième lieu, il convient de réconcilier la question de rendement de capital et de faire valoir le concept de l'intendance rigoureuse de la part des investisseurs institutionnels. Donc, dans ce sens, je dis en anglais « forceful stewardship » de la part des investisseurs institutionnels. L'objectif des entreprises est de réaliser les profits. Et hormis l'intervention des actionnaires, elles sont plus susceptibles de s'engager dans un processus d'atténuation et d'adaptation qui pourrait réduire les profits à court terme. Mais le réchauffement de la planète a des sérieuses répercussions sur les portefeuilles de placement. Alors, il y a une synergie avec le motif de profit et aussi les actions de ces actionnaires. Nous avons donc besoin d'une intendance rigoureuse. Les investisseurs institutionnels ont suffisamment d'influence économique pour exiger une action immédiate mettant en avant la production décarbonée et la viabilité à long terme. Je pense aussi que les actionnaires doivent également insister pour que les industries de combustibles fossiles dans lesquelles ils investissent arrêtent de dépenser des millions de dollars en campagne de lobbying, y compris les efforts visant à induire le public en erreur sur la science du climat et à retarder l'adoption de politiques rentables. Malgré de longues négociations, les pays ne sont pas encore arrivés à se mettre d'accord sur un plan complet qui transformerait fondamentalement le schéma actuel des émissions de carbone. Au lieu de cela, le gouvernement continue à encourager les émissions pour le biais de subventions aux énergies fossiles de plus de 500 milliards de dollars chacun. Si on introduisait une taxe mondiale sur le carbone et une taxe sur les marchés climatiques spéculatifs, le gouvernement aurait les ressources leur permettant de procéder aux nombreux changements nécessaires, réduisant notre dépendance à l'égard des marchés privés des capitaux pour financer ces changements. Les taxes sur le carbone rapportent déjà 7 milliards de dollars en revenus chaque année, principalement en Europe, et on estime que le revenu potentiel d'une taxe sur le carbone pourrait dépasser 1 600 milliards de dollars dans les prochaines 15 années si elle était largement mise en œuvre. Ceci créerait des ressources pour aider les entreprises et les consommateurs à convertir leurs activités à l'énergie propre. La nature du processus réglementaire et la capacité des gens ordinaires à se faire entendre lors des discussions sur le financement de l'action climatique sont autre considération importante. Les décisions sont biaisées car sur les grands intérêts économiques et les gouvernements sont à la table de discussion sur le financement de l'action climatique. Finalement, les gouvernements doivent faire l'intérêt public et de bien commun leur plus haute priorité. Ils ne devraient utiliser les marchés financiers que dans la mesure où ils peuvent éviter ou réduire leurs aspects spéculatifs et devenir une force positive dans l'élaboration des politiques sur le changement climatique. Merci.